Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons avancer dans l'explication que les pères donnent sur la fameuse parabole des vierges folles, des vierges sages. Donc c'est au chapitre 25, Saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Vous savez que les cinq vierges sages avaient pris avec elles une provision d'huile pour attendre l'époux qui tardait à venir. Et les cinq vierges folles avaient pris leur lampe, mais n'avaient pas pris d'huile avec elles. Donc les pères ont beaucoup commenté ces passages dans le Polycopier, donc qui couvre les chapitres 21-25 de Saint Matthieu, c'est à la page numéro 38, page 38. Donc, les pères de l'Église, j'ai déjà commencé un peu à expliquer, on va continuer. Les pères de l'Église nous disent que ces vierges folles et ces vierges sages qui attendent l'arrivée de l'époux représentent en fait l'âme qui attend l'arrivée du juge suprême. Nous sommes nous aussi avec nos lampes à l'entrée de la porte qui va sceller notre éternité, ou une éternité de bonheur ou une éternité de malheur. Ou une éternité de bonheur au ciel, après un passage au purgatoire, bien sûr, dans bien des cas. Ou une éternité de malheur en enfer. Où j'ai pris avec moi, en plus de la foi, les bonnes œuvres de la foi, la vertu de charité. Et à ce moment-là, je peux attendre le ciel. Où je n'ai pas voulu rajouter les bonnes œuvres. Je me présente les mains vides devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va arriver sans prévenir, au milieu de la nuit, je ne serai pas prête. Mon âme ne sera pas prête à le recevoir parce que j'aurais dû aller chercher de l'huile. Et du coup, je vais me présenter les mains vides devant lui. Saint Jérôme nous dit en haut de la page 38, après le jour du jugement, il n'y a plus d'occasion de pratiquer la justice et de faire de bonnes œuvres. C'est pour cela qu'il ajoute, et la porte fut fermée. La porte fut fermée montre le caractère irrémédiable du jugement. Que ce soit le jugement particulier à la fin de notre vie, au jour de notre mort, ou le jugement général à la fin des temps, où je suis dans le bon camp, où je suis dans le mauvais camp. N'oublions pas que le jugement marque le passage du temps à l'éternité. J'ai déjà expliqué ça très souvent, j'y reviens donc pas. Passage du temps à l'éternité, donc on est hors du temps dès qu'on est mort. Étant hors du temps, on est hors de tout mouvement possible. Parce qu'il faut du temps pour bouger d'un point à l'autre. Et donc, si je tombe dans l'éternité en amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, je garderai cette amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute l'éternité. Mais si je tombe dans l'éternité avec la haine de notre Seigneur Jésus-Christ contre notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme, je garderai malheureusement cette haine pour toute l'éternité. Telle est en effet la règle du plan divin, ou plutôt de la sagesse divine, de ne point laisser entrer dans sa joie éternelle ceux qui, dans les efforts qu'ils ont faits pour accomplir ses commandements, n'ont eu pour but que de plaire aux hommes et non pas à Dieu. Donc essayons de voir où se trouve mon cœur. Là où se trouve mon cœur, ben, là se trouvera mon âme. Si mon cœur est avec le monde, mon âme sera avec le monde, loin de Dieu. Si mon cœur est avec Dieu, mon âme sera avec Dieu. Non seulement nous ignorons le temps où doit venir l'époux, mais encore chacun de nous ignore le jour et l'heure de sa mort. Et celui qui s'y tient toujours préparé le sera aussi lorsque retentira cette voix qui doit réveiller tous les morts dans leur tombeau. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu qu'il viendra comme un voleur. Hein? Il faut penser à l'heure de notre mort. Et à chaque fois que on se lève le matin, pendant que vous faites votre prière du matin, pensez à cela, en disant, voilà mon Dieu, vous donnez un début de journée, est-ce que je verrai la fin de ce jour, je ne sais pas. Et donc il faut passer sa journée comme si c'était la dernière journée. Beaucoup de vieux prêtres nous disaient, je me rappelle, quand j'étais au séminaire, vous célébrerez bientôt la messe, célébrez votre messe comme si c'était la dernière messe de votre vie. Confessez comme si c'était la dernière confession de votre vie. Prêchez comme si c'était la dernière prédication que vous avez l'honneur de donner à vos fidèles. Eh bien, c'est la même chose pour vous, mes bien chers frères. Assistez à la messe le dimanche comme si c'était la dernière messe de votre vie, peut-être. Communiez comme si c'était la dernière communion de votre vie. Écoutez le sermon du jour comme si c'était le dernier sermon de votre vie. Préparez-vous à aborder la semaine suivante comme si c'était peut-être la dernière semaine de notre vie, nous ne savons pas. Il faut être prêt. Nous ignorons le temps de venir l'époux. C'est pour ça que les vierges folles se sont fait rouler, malheureusement. Elles n'étaient pas là au moment où l'époux arrive. Et donc, il faut être prêt à parler devant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas obligé de nous prévenir. Au moment où il arrive, il ne va pas vous envoyer un fax pour vous prévenir de son arrivée. Alors, il faut être prêt. Donc, il y a plusieurs interprétation des perles, j'en donne quelques-unes ici à la page 38. Saint Jérôme et Saint Hilaire, par exemple, donnent ce sens, ces explications au sens caché de la parabole des 10 vierges. Les vierges représentent l'humanité. Les vierges folles sont les juifs et les hérétiques qui vont refuser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et donc qui refuseront l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ quand il va venir. Au lieu de l'accepter, alors qu'il avait été annoncé par tous les prophètes qu'il avait prouvé sa divinité par tous les miracles qu'il a fait, bien malheureusement, bien, beaucoup de gens vont le refuser, le rejeter. Ce sont les juifs et les hérétiques, dit Saint Jérôme. Les vierges sages représentent les chrétiens. Soyons des hommes sages, mes bien chers frères. Soyons des femmes sages pour que nous soyons vraiment prêts lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Saint Jean Chrysostome donne une autre interprétation. Les vierges sages sont les prudentes, qui avec la virginité ont également l'huile de la charité, l'huile des bonnes œuvres. Les vierges folles, au contraire, sont celles qui n'ont pas cette vertu de charité. Donc, l'huile qui manque à la lampe représente la charité qui manque aux bonnes œuvres, qui manque plus exactement à la foi. Donc, dans l'esprit de ses pères, surtout Saint Jean Chrysostome, c'est un peu comme ça qu'il explique les choses. Donc, cette lampe à huile qui est supposée brûler, ben, ça représente la foi. Mais vous avez une belle lampe, vous avez une belle mèche qui attend d'être enflammée, mais s'il n'y a pas d'huile dans la lampe, à quoi ça sert d'avoir une belle lampe? Si j'ai la lampe de la foi, mais que je n'ai pas l'huile de la charité, si je n'ai pas les bonnes œuvres qui me font vivre de ma foi dans ma vie de tous les jours, à quoi me sert-il d'avoir la foi? Donc l'huile représente, dans ce cas-là, la vertu de charité, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Donc les vierges folles sont celles qui n'ont pas cette vertu de charité. D'autres pères disent, les vierges prudentes sont les contemplatifs et les religieux, qui ont l'huile de la charité, une disposition droite. Ils ont la foi jointe aux œuvres de miséricorde, couronne de la charité, toutes les autres vertus. Les vierges folles ont la foi seule, sans les bonnes œuvres. Ça, c'est le protestantisme. Les protestants pensaient être sauvés simplement par la foi. Et si j'ai pas la charité,
fruit de la foi. Ah, comme c'est rien d'avoir la foi. Donc, est-ce que j'ai la charité, mes bien chers frères? Il faut se poser cette question plusieurs fois par jour. Est-ce que j'ai en moi la vertu de charité? Est-ce que j'ai en moi les bonnes œuvres de tous les jours? La charité, rappelez-vous, je vous l'ai déjà expliqué mille fois, la charité, c'est l'état de grâce. Donc, est-ce que j'ai l'état de grâce? Et si je n'ai pas l'état de grâce en moi, eh bien, la foi ne me sert de rien. Oui. C'est la charité qui enlève les péchés. C'est pas la foi. C'est pour ça que les protestants ont toujours un découragement profond, fécond au fond d'eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Parce qu'ils ne peuvent pas enlever leurs péchés. Parce qu'ils n'ont pas la charité. Ils croient qu'on peut se sauver que par la foi seule. Et pour eux, les péchés ne sont pas enlevés par notre Seigneur Jésus-Christ. Les péchés sont simplement recouverts par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ça ne suffit pas. D'autres explications encore des peurs. La lampe représente l'âme fidèle ou la foi elle-même. L'huile symbolise les bonnes œuvres, sans laquelle la foi est morte, c'est-à-dire la charité, c'est-à-dire éteinte. Et par les bonnes œuvres, elle est vivante car sa flamme brûle. La lumière, la flamme de la lampe, c'est la charité nourrie par les ailes pour les bonnes œuvres, comme la flamme de la lampe est nourrie par l'huile. Et le vase qui contient l'huile est la conscience ou l'âme du croyant. Et c'est la raison pour laquelle on place une chandelle de lumière entre les mains d'un mourant, priant pour qu'il soit trouvé par Dieu avec la foi et les bonnes œuvres, pour qu'il soit accueilli comme l'épouse avec sa lampe allumée par le Christ, notre Seigneur, l'Épouse céleste. Bon, il y a plusieurs explications. C'est sûr qu'on retrouve dans le symbole de la lampe à huile les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. On peut expliquer aussi d'une autre façon. Moi, j'explique souvent comme ça quand je prêche. Je prends souvent cet exemple pour expliquer l'union qui doit exister en nous, les trois vertus théologales. La foi, c'est la lampe elle-même. L'espérance, c'est l'huile. Et la charité, c'est la flamme. Et donc, il faut les trois choses. Si vous jetez une allumette enflammée dans une bassine d'huile, elle s'éteint. Il faut un flotteur, ce flotteur, il faut une petite mèche qui brûle, qui s'imbibe d'huile, et il faut pouvoir faire brûler cette mèche. Donc le vase qui va contenir l'huile, c'est là donc la vertu de foi qui contient la vertu d'espérance. La vertu d'espérance, on n'y pense pas assez parce que c'est une petite vertu. L'huile, c'est pas très beau, c'est pas très propre, ça sent mauvais, ça tache partout. Eh bien, cette huile représente la vertu d'espérance et la charité. C'est la lampe qui brûle. Donc le but de l'existence même de la lampe, c'est la charité. Alors il faut se poser cette question tous les matins. Est-ce que ma lampe à huile est en état de fonctionnement? Est-ce que j'ai de l'huile? Est-ce que la lampe est en bon état d'abord? Est-ce qu'elle n'est pas fissurée? Une lampe qui est fissurée, elle ne peut pas garder longtemps l'huile. L'huile va s'échapper par les fissures. Elle va tacher le support de la lampe. Couler partout. Est-ce que j'ai suffisamment d'huile? Et est-ce que j'ai suffisamment d'espérance? Si je n'ai qu'un fond d'huile, ben je me retrouverai comme les vierges folles. Au moment où l'époux va venir sans prévenir, ben je ne serai pas là pour l'accueillir. Est-ce que j'ai une mèche qui brûle, qui est en bon état, qui est propre? Et est-ce que cette mèche brûle par la flamme de la charité? Si j'ai une belle mèche de l'huile, mais que j'ai oublié le briquet pour allumer la mèche, à quoi me sert la lampe à huile? Rien du tout. Alors, d'autres explications des pères. J'ai pris ça chez saint Thomas d'Aquin, aussi chez Cornelius Lapide. Le retard de l'époux qui arrive au milieu de la nuit représente le temps de pénitence, le temps de repentance. Si notre lampe est éteinte, c'est que notre âme n'est pas en état de grâce, qu'elle est obscurcie par le péché mortel. Pourquoi? Parce que la flamme, je vous l'ai dit, représente la vertu de charité. La vertu de charité, c'est l'état de grâce. Donc une mèche qui n'est pas enflammée, c'est une mèche qui est éteinte. Pourquoi elle est éteinte? Est éteinte parce que justement l'état de grâce n'est plus là. Au moment où le démon vient voler dans notre âme la présence de Dieu, en nous poussant à commettre un péché mortel, au moment précis où je commets le péché mortel, le bon Dieu, le démon va pousser son cri de victoire. Il a réussi à nous faire perdre le bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Pour bien nous montrer que c'est lui maintenant qui est le possesseur de notre âme, il va éteindre d'un souffle de son souffle, il va éteindre la lampe, La lampe à huile sera éteinte et j'ai pas le moyen de la rajouter parce que j'ai perdu le briquet qui me permet de la rallumer. Je peux pas rallumer cette lampe. Et donc je n'ai plus la flamme de la foi, unie à la charité, donc j'ai plus rien. N'oublions pas le rôle de la flamme. La flamme qui représente la charité, elle éclaire, elle protège aussi, elle réchauffe. La charité va donc protéger l'âme contre le démon, va réchauffer l'âme contre le froid du monde moderne et va éclairer pour nous montrer le bon chemin à suivre et apprendre à garder surtout pour aller au paradis. Donc si notre lampe est éteinte, c'est que mon âme n'est plus en état de grâce, obscurcie qu'elle est par le péché mortel. Donc il faut, mes bien chers frères, non seulement vérifier que notre lampe est en bon état de marche tous les matins au lever, mais en même temps vérifier que dans la journée, cette lampe est continuellement sous protection. Parce qu'un coup de vent peut la renverser, le démon peut venir la secouer, casser tout, casser le réceptacle de l'huile, s'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Donc il ne s'agit pas simplement de vérifier que notre âme est en bon état de marche, il faut la conserver dans cet état de marche. Et ça, ce n'est pas une chose très facile. Garder sa lampe brûlée 24 heures toute la journée, ce n'est pas une chose facile, mais c'est ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ. Le matin, il va nous donner, à vous et à moi, il va nous donner les grâces dont vous et moi nous avons besoin pour maintenir cette lampe à huile en bon état, en état de fonctionnement pendant toute la journée. Et c'est en même temps une protection pour nous, parce que le démon, vous savez, le démon, il n'est pas fou. Hein. Avant de rentrer dans une âme, il commence par vérifier si la lampe brûle. S'il voit que la lampe à huile de mon âme est en bon état et qu'elle brûle, il va quand même hésiter un peu à rentrer. Parce qu'il sait qu'il risque de prendre des coups, surtout s'il y a la Sainte Vierge dans le coin. Alors qu'est-ce que va faire le démon? Il va chercher à nous occuper à des choses superficielles pour qu'on perde la compréhension de l'importance des choses qui valent vraiment la peine. Et le démon va finir par nous éloigner de notre devoir d'État, et à ce moment-là, puisque nous serons loin de notre devoir d'État, nous serons loin de la Sainte Vierge, il n'y aura plus personne pour protéger la lampe à huile, et du coup, il peut l'éteindre. Il suffit de l'éteindre. Quand il a éteint, ça veut dire que le péché mortel est rentré dans cette âme. Et là, c'est trop tard pour l'âme pour faire quoi que ce soit. Il ne peut plus rien faire. Donc, reprenez un petit peu toutes ces explications données par les pères. Mais je pense que le point principal, c'est ça. C'est ce qu'est la flamme. La flamme qui brûle, la lumière qui brûle, c'est le symbole de la charité, donc de l'état de grâce. Alors, l'époux est en retard pour bien nous montrer qu'il faut se préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire pénitence. Si notre lampe est éteinte, c'est que notre âme n'est pas en état de grâce, qu'elle est obscurcie par le péché mortel. C'est pour ça qu'on ne voit plus rien. Il faut prendre un chiffon et te nettoyer, c'est la confession. D'où l'importance de la confession régulière. Il faut vraiment que tous les matins, tous les soirs, j'examine cette lampe à huile, la lampe à huile de mon âme. Est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que cette lampe fonctionne? Est-ce qu'il y a suffisamment d'huile? Est-ce que la flamme est suffisamment claire pour remplir sa fonction d'éclairage, de protection, de réchauffer? Ou est-ce qu'au contraire, je sais que ça ne va pas durer longtemps. Et il faut faire ça deux fois par jour, pas simplement le matin, faire ça aussi le soir avant de se coucher. La première chose à faire le matin en se levant, c'est vérifier que notre lampe à huile est en bon état. Et puis, première chose à faire le soir avant de se coucher, avant de s'endormir, c'est de vérifier de nouveau si notre lampe à huile est en bon état pour la nuit, et si elle va tenir toute la nuit. Donc est-ce que mon âme est en état de grâce, lumineuse, ou est-ce qu'au contraire elle est éteinte et donc obscurcie par le péché mortel? Au contraire, si notre lampe est allumée, disent les pères, c'est que la profession de la vraie foi par la participation au sacrement l'a maintenue vivante. Au moment de la mort et du jugement, toutes les vierges folles vont réaliser le néant des choses d'ici-bas. Mais c'est trop tard pour elles car leur lampe est définitivement éteinte. Le mariage avec l'époux réveille l'âme de l'immortalité par son union avec le Verbe de Dieu, son époux. Donc, c'est au moment précis, nous disent les pères, où j'apparais devant Dieu, parce que le bon Dieu va m'appeler d'une façon ou d'une autre, l'époux va arriver d'une façon ou d'une autre, où je ne suis pas là pour l'accueillir, mais il viendra plus tard pour me chercher quand même au moment du jugement particulier. Et si j'ai rien à lui offrir, je relève ma vie devant lui. Ça, c'est terrible. Pensez ce que doit être le jugement d'une âme qui a les mains vides. Le bon Dieu va mettre devant cette âme toutes les grâces qu'il lui avait préparées, qu'il lui a données pendant toute sa vie. Grâce du baptême, peut-être, grâce des sacrements, grâce de la messe, grâce de certaines prédications, je ne sais pas. Et il va dire à cette âme qui vient de passer du temps à l'éternité, rends compte de ta gestion. Qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait des grâces que je t'ai données? Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces belles choses que je t'ai données? Qu'en as-tu fait? Rends compte de ta gestion. Imaginez la confusion d'une âme qui se rend compte à ce moment-là qu'elle a plus rien à donner parce qu'elle est vide. C'est ça qui me frappe le plus dans le monde d'aujourd'hui. Quand on se promène dans les villes, on se rend bien compte que les hommes qu'on rencontre ont les mains vides. Ils n'ont rien. Si notre Seigneur Jésus-Christ vient les chercher, ils ne savent même pas comment s'adresser à lui et quoi lui répondre parce qu'ils n'ont rien. Si notre lampe est allumée, nous disent les pères, c'est que la profession de la vraie foi par la participation au sacrement l'a maintenue vivante. C'est qu'il y a la vraie foi et donc il y a la vraie charité. La foi entraîne la charité. Et donc deux fois par jour, pensons à ces choses-là. Vérifions l'état de notre âme, notre lampe, l'état de notre âme, pour que si notre Seigneur Jésus-Christ vient me chercher pendant la nuit, ben, je suis prêt, je sois prêt. Je sois comme la Vierge sage, et non pas comme les Vierges folles. Au moment de la mort, disent les pères et du jugement, toutes les vierges folles vont réaliser le néant des choses d'ici-bas. Mais c'est trop tard pour elles, car la lampe est définitivement éteinte. Elle n'est pas simplement éteinte. Ici-bas, sur terre, elle s'est éteinte par le péché mortel, mais elle est toujours là, la lampe. Donc on peut la re-remplir, chercher l'huile, la re-remplir, rallumer la mèche et on est parti. Mais au moment du jugement, si je suis un tas de péchés mortels le jour du jugement, ma lampe n'est pas simplement vide d'huile, mais le démon va la briser, va la laisser tomber, va la faire tomber, va nous obliger à la lâcher, elle va s'écraser sur le sol. Une lampe en terre cuite, c'est pas solide du tout, ça s'éclate immédiatement en mille morceaux, ne peut plus servir à rien. Et donc là, c'est plus possible. Le démon a détruit ma lampe, donc je ne peux plus avoir d'huile dans ma lampe, puisqu'il n'y a plus de lampe à huile pour la contenir. Je ne peux plus avoir de mèche, puisque j'ai besoin de la lampe en bon état pour avoir une mèche qui fonctionne. Et évidemment, n'ayant plus de lampe, n'ayant plus d'huile, n'ayant plus de mèche, j'ai plus de lumière, donc j'ai plus de charité. Et le démon aura le droit, malheureusement, de dire au bon Dieu, cette âme m'appartient, est à moi. Elle détruit sa lampe. Au moment de la mort et du jugement, toutes les vierges folles vont réaliser le néant des choses d'ici-bas. Et c'est trop tard pour elles, car la lampe est définitivement éteinte. On peut même dire définitivement écrasée, écrabouillée. Le mariage avec l'époux révélable de l'immortalité par son union avec le Verbe de Dieu, son époux. Ce mariage représente donc l'union de notre Seigneur Jésus-Christ avec les plus belles de ses créatures, à savoir les âmes spirituelles. Donc les âmes substances spirituelles douées d'intelligence et de volonté, capables de connaître Dieu et de le suivre. N'oublions pas que le bon Dieu n'a créé que deux créatures avec une âme. Donc deux créatures rationnelles, raisonnables, les anges et les hommes, c'est tout. Les anges, ils ont leur épreuve. Adam et Ève ont eu leur épreuve aussi, et nous, on aura aussi notre épreuve au jour du jugement, mais il faut la préparer, cette épreuve. Ne pas tout perdre. Le mariage avec l'époux revêt l'âme de l'immortalité par son union avec le Verbe de Dieu et son époux. Après être passé par la voie purgative, va continuer par la voie illuminative, on arrive enfin en voie unitive. La voie unitive, c'est la voie mystique, c'est la voie d'union définitive avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel. L'âme devient l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, il faut, en lisant ces textes magnifiques, un peu alarmants de l'Écriture sainte, il faut vraiment penser à nos responsabilités, et pas simplement à nos responsabilités concernant notre âme, mes bien chers frères. N'oubliez pas qu'il y a une autre âme dont vous avez la charge. Vous n'êtes pas que votre âme. Dans bien des cas, vous avez d'autres âmes dont vous êtes responsable. Vos enfants. Dans quel état sont les lampes à huile de vos enfants? Dans quel état sont les âmes de vos enfants? Combien d'âmes parmi vos enfants, mon Dieu vous a donné 4, 5, 6 enfants, combien c'est en état de grâce? Combien est une lampe à huile qui brûle? Combien ont une bonne réserve d'huile? Combien ont une belle lampe à huile sans fissure? Au contraire, combien ont tout laissé tomber? C'est terrible de penser à tous ces gens qui s'occuperont de leur lampe à huile au moment où ils vont passer devant le bon Dieu. D'un seul coup, le bon Dieu va leur apparaître, rend compte de ta gestion. Oh, ma lampe, où est-elle? D'abord, on ne sait même pas où elle est, donc il faut aller la chercher. On la trouve au fond d'une poche. Oh, la lampe, elle ne brûle pas. Vite, un briquet. Donc on allume le briquet pour essayer d'allumer la mèche. Mais la mèche ne brûle pas, évidemment, il n'y a pas d'huile. Ah, oh, l'huile. J'ai besoin d'huile pour avoir une lampe. Une lampe qui fonctionne, une lampe qui brûle. Mais j'ai pas d'huile, donc il faut que j'aille chercher de l'huile. Mais c'est trop tard, monsieur. Votre Seigneur Jésus-Christ est venu. Maintenant, il vous appelle. Et vous demande de rendre compte de votre gestion. C'est trop tard. C'est ça, le désespoir terrible de l'âme condamnée. De l'âme condamnée à mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Le désespoir, et j'ai tout perdu. Maintenant, c'est trop tard. Oui. Au contraire, si la lampe est brillante le jour de ma mort, à ce moment-là, je vais être considéré par notre Seigneur Jésus-Christ comme étant digne de devenir une épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mariage avec l'époux revêt l'âme de l'immortalité par son union avec le Verbe de Dieu, son époux. Vous pensez à toutes ces choses-là. Et encore une fois, mes bien chers frères, ne pas y penser quand on est mort, c'est un peu tard. Hein. Il faut y penser maintenant. Pas attendre. Alors les pères de l'Église ont certains textes, j'en ai pris, choisi certains ici, pour nous aider à comprendre l'importance de ce sujet. Considérons trois choses pour ne pas pécher. D'où venons-nous? Où allons-nous? Considérons à qui devrons-nous rendre compte de notre vie, de l'usage que nous avons fait des puissances de notre âme. D'où viens-je? Où vais-je? Qu'est-ce que j'ai fait de mon âme? Et il y a des choses à dire sur ce texte des vierges sages et des vierges folles. Est-ce que je suis une vierge sage ou est-ce que je suis une vierge folle? N'oublions pas, dès qu'on a quitté le temps, on est passé dans l'éternité, il n'y a plus de moyen de changer. Donc il faut changer maintenant, pas attendre. Et parfois, le changement commence tout simplement par une bonne confession, une simple confession. C'est déjà être la première étape d'un changement profond, d'un changement définitif de notre âme. Voyons en bas de la page 38. Réponse à ces trois questions. Nous venons d'une matière fétide, le limon de la terre. L'homme a été créé à partir du limon de la terre. Nous allons au lieu descendre de la poussière et des vers. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Rappelez-vous le mercredi des cendres, le jour où le prêtre a mis la cendre sur votre front en vous disant tu es poussière et tu retourneras en poussière. Nous devons rendre compte de notre vie, roi des Juifs, au sein des saints, au bienheureux. Et puis, à ce moment-là, plus de mensonges possibles. On ne peut pas payer un avocat pour qu'il mente pour nous, pour nous mettre dans les bons draps, nous faire accepter par le juge. Non, c'est trop tard. Ça, mes bien chers frères, je vous conseille beaucoup. Je vous l'ai déjà dit souvent, je m'excuse de me répéter, mais j'ai peur que peu de personnes le fassent. Relisez ces textes. Entre les deux cours, pour ceux qui écoutent le cours une fois par semaine, entre les deux cours, relisez le polycopié du cours précédent. Et même si vous avez un peu de temps, lisez le polycopié du cours suivant, pour vous préparer au cours suivant. Page 39 du polycopié. Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Donc là, c'est une autre parabole. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de terminer la parabole des vierges sages et des vierges sages et des vierges folles. Et pour être sûr que nous comprenions, tout de suite, il explique, il embraye avec une autre parabole. Imaginez un homme qui, partant pour un long voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla, creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et présenta 5 autres talents en disant, « Seigneur, vous m'avez remis 5 talents, voici que j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que vous êtes fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup, entrez dans la joie de votre maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, vous m'avez remis 2 talents, voici que j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup, entrez dans la joie de votre maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je sais que vous êtes un homme dur, qui moissonnez, vous n'avez pas semé, qui ramassez, vous n'avez pas répandu. C'est pourquoi j'ai eu peur et j'ai caché votre talent dans la terre. Le voici, vous avez ce qui est à vous. » Et son maître lui répondit, « Serviteur mauvais, paresseux, vous saviez que je moissonne ou je n'ai pas semé, que je ramasse ou je n'ai pas répandu. Il me fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré avec usure ce qui est à moi. Enlevez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera de l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il semble avoir. Quand à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Donc c'est la même leçon que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Soit-ci, c'est plus l'histoire d'une lampe à huile qui doit brûler, qui doit avoir une belle flamme, flamme de la charité. Mais le bon Dieu va nous parler de l'usage des dons qu'il nous a donnés. C'est en fin de compte exactement la même histoire, vu sous un angle un peu différent. Au lieu d'une lampe à huile qu'il faut entretenir et garder en bon état, eh bien j'ai des talents, des dons que le bon Dieu m'a donnés, un certain nombre de choses qu'il m'a confiées. C'est pas à moi, c'est pour un moi, pour utiliser, être utilisé pendant un certain temps. Alors, encore une fois, le bon Dieu me donne un certain nombre de talents, certains il en donne 5, certains il en donne 2, certains il en donne qu'un seul. Mais quel que soit le nombre de talents que j'ai reçu, il faut que je les fasse fructifier. Si j'en ai reçu 5, il ne s'agit pas d'en donner un de plus, ça ne suffit pas. Il faut en donner 10. Si j'en ai reçu 2, il faut le double, il faut que j'en ai donné 4. Si j'en ai reçu qu'un seul, il faut que je donne le double. Il ne s'agit pas pour celui qui a reçu 5 talents de se dire « Oh !» Le troisième du larron, là, il a reçu qu'un talent, donc si j'en fais un talent en plus, ça suffira largement. Non, parce que vous avez reçu 5 talents, monsieur. Puisque vous avez reçu 5 talents, il vous faut en présenter 10. Il ne faut pas que celui qui n'a reçu que 2 talents regarde ceux qui en ont 5 et dise, bon, lui, il a tout reçu, moi, j'ai rien reçu, alors ça ne vaut pas le coup que je continue. Non, parce que même si vous n'avez reçu que 2 talents, Dieu va exiger de vous que vous en fassiez fructifier 2 autres de ces talents. Pareil pour celui qui n'a qu'un seul talent. Et celui qui n'a pas fait bon usage de ses talents sera condamné par notre Seigneur et sera jeté, encore une fois, dans le lieu des pleurs et des grincements dedans. À ce serviteur inutile, quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères, mes bien chers frères, beaucoup de choses. Cet homme qui part pour un long voyage, c'est notre Rédempteur, qui est parti pour le ciel, revêtu de la chair qu'il avait prise pour notre salut, car la terre est comme le pays natal de la chair et le lieu de son habitation. Et elle part pour un long voyage lorsqu'elle est placée dans le ciel par notre Rédempteur. Donc le bon Dieu qui monte au ciel veut monter au ciel avec toutes ses créatures. Il me demande de venir avec lui, mais il faut encore avoir les conditions pour pouvoir rentrer au ciel. Il faut avoir l'habit de noces. Alors, voyons un petit peu les différentes explications données par les pères à la page 40. Encore une fois, il y a beaucoup de choses chez les pères. Essayons de voir un petit peu les idées principales, qui sont d'ailleurs les mêmes. Il faut mettre toutes ces idées en parallèle avec les mêmes idées exprimées par les pères sur la parabole des vierges folles et des vierges sages. Donc, ce maître qui fait ce voyage, c'est le mystère de l'incarnation. C'est Dieu qui se revêt de notre humanité. Ce n'est pas comme Dieu qu'il fait ce voyage, mais comme homme, page 40. Revêtu du corps qu'il a pris dans le mystère de son incarnation. Et nous pouvons dire aussi que le Seigneur voyage non loin de ceux qui marchent par la foi et qui ne jouissent pas encore de la claire vue. Donc ce maître, cet homme qui part pour un long voyage, dans un texte parallèle, il est parlé d'un roi qui part pour un long voyage, qui appelle ses serviteurs et qui leur remet ses biens. Eh bien, cet homme qui part pour un long voyage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'unit à notre nature humaine par sa divinité, par le mystère de l'incarnation. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas nous laisser avec des œuvres stériles. Il nous donne des choses sur lesquelles il faut travailler. Il nous a donné une intelligence, une volonté, un cœur. Il nous faut utiliser cette intelligence pour découvrir le vrai. Il nous faut utiliser cette volonté pour atteindre le bien. Il nous faut utiliser notre cœur pour aimer comme il faut et qu'il faut. Encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut de son intelligence, de sa volonté ou de son cœur. Alors, le bon Dieu, un jour, va revenir. Il va nous demander des comptes. Qu'as-tu fait de ta gestion ? Et la grande habileté des politiques, nous disent les pères, c'est de donner de beaux prétextes à leurs mauvais desseins. Passer, dit Saint-Grégoire, c'est l'acte de l'humanité, tandis que le propre de la divinité demeurait. Notre Seigneur Jésus-Christ, il passe avec sa humanité, mais il va revenir, attention. S'il est honteux pour vous d'apparaître tel que vous êtes, il est plus honteux encore de l'être. Ou bien soyez ce que vous paraissez, ou bien paraissez ce que vous êtes. Si je parais être un homme de bien, il faut encore que je sois un homme de bien. Le bon Dieu m'a donné un certain nombre de talents. D'abord, comptons les talents qu'il m'a donnés. À certains, il en donne un, à certains, il en donne deux, à certains, il en donne cinq. Peut-être qu'il y en a qui en recevront encore plus. S'il m'a donné 10 talents. Moi qui suis prêtre, j'ai reçu la grâce de la vocation. C'est une grâce du bon Dieu, donc j'ai reçu plus de talents. La grâce de la vocation est une grâce qui, à elle seule, vaut plusieurs talents en plus, certainement. Et parce que j'ai reçu justement cette grâce des talents, ben le bon Dieu, qui sait qui m'a donné cette grâce de la vocation, donc un talent supplémentaire, va demander plus de choses de ma part, parce qu'il sait justement que j'ai reçu plus. Il faut rendre proportion de ce qu'on a reçu. Enfouir son talent, c'est ce qu'a fait le troisième homme qui a reçu un talent, qui au lieu de le faire fructifier va enfuir le cacher. Enfuir son talent, c'est employer son esprit aux choses de la terre. Celui qui gaspille, enfuit son talent n'est pas celui qui a la volonté de pécher, car celui qui pêche n'enfouit pas son talent, il le gaspille. Vous voyez, il y a deux choses. Soit j'enfouis mon talent sous la terre, c'est ce qu'il dit dans l'évangile. J'ai eu peur, j'ai caché votre talent dans la terre, le voici, vous avez ce qui est à vous. La première chose, il faut ne pas faire ce qu'a fait cet homme, il s'est contenté de cacher son talent dans la terre. Deuxième chose, il ne s'est pas préoccupé de faire fructifier ce talent. Donc celui qui enfouit son talent n'est pas celui qui a la volonté de pécher, car celui qui pêche n'enfouit pas son talent et gaspille. Celui qui enfouit son talent, il veut essayer d'éviter le péché, mais il ne fait pas ce qu'il faut pour. Et celui qui ne fait pas, celui qui gaspille son talent, au lieu de le mettre en banque, la banque spirituelle, en obtenir quelque chose, il le gaspille, donc il n'y aura plus rien. Lorsque le maître va revenir pour redemander une gestion, ce qu'on a fait, comment on s'est occupé de la gestion qu'il nous avait confiée, on n'aura plus rien à donner encore une fois. Donc, posons-nous deux questions. Combien de talents est-ce que j'ai reçu ? Première question. Deuxième question. Est-ce que je n'ai pas gaspillé ces talents reçus ? Si j'ai reçu 5 talents, qu'est-ce que le bon Dieu attendait de moi pour ces 5 talents ? Comment il attendait à ce que je les fasse fructifier pour lui en donner 10 ? Ou est-ce qu'au contraire, je ne me suis pas occupé des talents que j'ai reçus ? Alors, ils sont tombés par terre, ils sont enfouis sous la terre. Plus personne ne s'en occupe, je ne sais même plus où ils sont d'ailleurs. Non, mais bien cher frère, il faut nous préoccuper de ces talents. Celui qui enfouit son talent, c'est celui qui refuse d'accomplir le bien, le trouvant trop difficile. Ayant reçu la connaissance de Jésus-Christ, se refuse à la vie spirituelle. C'est ceux qui ont vu la vérité, mais qui ne veulent pas prendre les moyens pour mettre cette vérité à profit. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement de cacher ses talents, il faut les faire fructifier. Il faut donc les donner au banquier, dans le bon sens du terme, et les faire fructifier. Évidemment, le bon Dieu ne nous demande pas de faire fructifier ses talents par usure, parce que l'usure est un péché. Mais il nous demande de faire fructifier les talents qu'il nous a confiés, justement, par le bon usage de ses talents, les bonnes œuvres. Donc les talents représentent les bonnes œuvres. Comme la lampe qui brûle, représentait les bonnes œuvres. Donc là aussi, il faut l'espérance, la foi, la charité, il faut tout ça. Donc ces talents représentent à la fois la foi, à la fois la charité, à la fois l'espérance. Et si j'ai fait fructifier ces talents, j'en avais 5, j'en ai 10 maintenant, eh bien cette fructification de mes talents représente les bonnes œuvres. Donc celui qui enfouit son talent, celui qui refuse d'accomplir le bien, le trouvant trop difficile, ayant reçu la connaissance de Jésus-Christ, se refuse à la vie spirituelle. Il n'y a pas de vie de l'âme sans vie spirituelle. De même qu'il faut que je nourrisse mon corps pour que mon corps ne défaille pas, ne finisse pas par mourir, de la même façon, il faut que je nourrisse mon âme pour que mon âme justement soit en bon état, soit bien présentable devant Dieu, pour qu'elle puisse donner des fleurs, pour donner des fruits. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour récolter les fruits qu'il a le droit d'attendre de mon âme. Donc celui qui a reçu la connaissance de Jésus-Christ, mais qui refuse de mettre cette connaissance en pratique, eh bien il refuse la vie spirituelle. Une âme sans vie spirituelle, c'est une âme moribonde qui va mourir. Vous voyez, c'est ça le drame du monde moderne. Les gens se ruent sur les choses matérielles, se ruent sur les choses physiques et oublient les choses bienheureuses qui durent pour tout le temps. Regardez ces gens qui sont capables, ces jeunes qui sont capables de passer une nuit entière devant un magasin parce que le lendemain matin, on va vendre dans ce magasin pour la première fois le dernier téléphone intelligent, smartphone, avec le dernier disque extraordinaire sur ce téléphone intelligent. Alors ils passent toute la nuit, dans le froid, en train d'attendre pour être le premier, être sûr d'avoir l'objet tant convoité. Et si je demandais à ces mêmes personnes de faire le tiers de ça comme pénitence pour passer non pas toute la nuit en attente dans le froid, passer une heure pour se préparer à faire une bonne confession, ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps de passer une nuit entière dans le froid pour obtenir une chose purement matérielle. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur âme. Quel malheur. Et donc ces talents, au nombre de 5, de 2 ou d'un, représentent les diverses grâces qui furent données à chacun d'entre nous. Donc combien de talents est-ce que j'ai reçu? Que dois-je faire pour les faire fructifier? Comment puis-je les faire fructifier avant que le Seigneur revienne? Attention, l'Évangile ne dit pas que cet homme... qui est parti pour un long voyage, il va partir pendant des mois. En fait, il va revenir très vite, mais on ne sait pas quand. Il peut revenir le lendemain. Hein. Il peut revenir dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Mais il va revenir, c'est sûr, et beaucoup plus tôt qu'on ne pense, et sans prévenir.
Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce nombre de talents qu'il nous faut connaître. Là, on parle de 5, de 2 et d'un talent. Mais là, nous avons reçu un nombre de talents différents. Ça peut être 2, 4, ou 6, ou 10, ou 20, ou 100, ou 1000. Moi, j'ai reçu beaucoup plus de talent parce que je suis prêtre. Mais malheur à moi si je n'ai pas fait bon usage de ces talents. Malheur à moi si je me suis contenté d'enfuir ces talents dans la terre pour atteindre la fin du monde. Attendre la fin du monde, non, ce n'est pas ce que nous demande notre Seigneur. Alors, les pères ne sont pas d'accord entre eux sur la signification de ces 3 chiffres. 1 talent, 2 talents ou 5 talents. Parce qu'il est parlé de ceux qui ont reçu 5 talents, ceux qui ont reçu 2 talents ou ceux qui ont reçu qu'un seul talent. Notons que celui qui a reçu un seul talent peut aller au ciel aussi, du moment qu'il fait fructifier le talent qu'il a reçu. Le bon Dieu ne vous demande pas à ce que celui qui a reçu un seul talent de faire fructifier ce talent pour en donner 5 autres. Non. Par contre, à celui qui a déjà reçu 5 talents, le bon Dieu va demander un fruit important et demander 5 talents supplémentaires parce qu'il en a déjà reçu 5. Mais s'il voit qu'il vous a donné un seul talent, il va vous dire, je vous ai donné un talent il y a 1 an, il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, qu'en avez-vous fait? Où est le fruit de votre talent? Seigneur, j'ai mis ce talent au travail et maintenant j'en ai un autre à vous offrir. J'en avais un, maintenant j'en ai 2. Bien.
bon et fidèle serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Parce que vous avez été fidèle en peu de choses. Un talent, c'est peu de choses. Je vous établirai sur beaucoup. Entrez dans la joie de votre maître. Alors, les pères, encore une fois, ne sont pas d'accord entre eux sur les différentes explications à donner. Mais posez-nous d'abord cette question. Combien de talents est-ce que j'ai reçu? Deuxième question, comment puis-je les faire fructifier? Troisième question, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt le jour où mon Dieu vient me demander le fruit de ma gestion? Alors voyons un petit peu ce que disent les pères ici, c'est Saint Grégoire le Grand, je crois. Celui qui a reçu cinq talents est celui qui peut donner aux figures de l'Écriture sainte un sens plus élevé et tout divin. Les cinq talents représentent les dons des cinq sens, c'est-à-dire la science des choses extérieures, la science des choses de ce monde. Ce n'est pas en soi un péché d'avoir la science des choses de ce monde, mais il faut comprendre que les sciences mondaines doivent être laissés à leur place, et qu'au-dessus de ces sciences mondaines, il y a des sciences spirituelles qui ont bien plus de valeur. Donc ces cinq talents représentent les choses extérieures. Celui qui ne connaît que le sens littéral et extérieur de la doctrine a reçu deux talents. C'est le nombre 2 qui se rapporte aux choses extérieures et charnelles. Ces deux talents désignent l'intelligence et l'action. Donc si j'ai reçu cinq talents, les pères nous disent que les cinq talents représentent les cinq sens. Donc j'ai pu mettre au service du bon Dieu chacun des sens qu'il m'a donné. Les yeux pour voir, la langue pour parler, les oreilles pour écouter, le nez pour sentir. Je mets tout ça au service du bon Dieu. Si je n'ai reçu que deux talents, ça veut dire que j'ai reçu l'intelligence et l'action. Et je vais déjà pouvoir présenter quelque chose à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'a reçu qu'un seul talent, celui-là, il a reçu le don d'intelligence. Les cinq talents, les cinq sens. Les deux talents, l'intelligence et l'action. Le talent unique, le don d'intelligence. Mais même avec le don d'intelligence, l'unicité du don d'intelligence, on peut déjà aller au ciel. C'est tout à fait possible. Donc ne pas se décourager. Donc ce serviteur à qui son maître a confié deux talents, c'est le peuple des gentils, qui a été justifié par la foi et par la confession du Père et du Fils, qui témoigne hautement que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme, par l'union de l'Esprit et de la chair. Donc il arrive après celui qui a reçu que deux talents. D'abord il y a celui qui a reçu les cinq talents, et puis il y a celui qui a les deux talents, puis celui qui a à recevoir qu'un seul talent. Donc c'est le peuple des gentils, c'est-à-dire le peuple qui est arrivé en retard, mais qui reçoit déjà quelque chose, parce qu'il a fait fructifier ce talent que Dieu lui a confié. Alors ici, les pères de l'Église donnent certaines explications des termes utilisés par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Ce peuple a donc reçu deux talents, et de même que les Juifs ont doublé en croyant à l'Évangile la valeur de ces cinq talents mystérieux, c'est-à-dire de la loi qu'ils avaient reçue, ainsi les gentils, en faisant fructifier leurs deux talents, ont mérité de les voir doublés par le don d'intelligence et des œuvres. Donc j'ai reçu deux talents, j'en donne quatre au bon Dieu. Parce que justement j'ai pu faire fructifier des choses que j'avais reçues du bon Dieu. Malheur à celui qui a reçu du bon Dieu et qui ne rend rien. Nemo dat quod non habet. Personne ne donne ce qu'il n'a pas, mais quand on a reçu, on a intérêt à donner encore plus, hein. Donc les deux talents représentent le peuple des gentils. Selon d'autres pères, ce peuple qui a reçu deux talents, c'est... Voilà ce que disent les pères. Ce peuple a donc reçu deux talents. De même que les Juifs ont doublé en croyant en l'Évangile la valeur de cinq talents mystérieux, c'est-à-dire de la loi qu'ils avaient reçue. Ainsi, les gentils, en faisant fructifier leurs deux talents, ont mérité de les voir doublés par le don d'intelligence et des œuvres. Donc si j'ai que deux talents, mais que je les ai bien utilisés, j'ai bien mis à contribution pour qu'ils rapportent du fruit à ce moment-là, j'ai fait mon devoir d'État et le bon Dieu me donnera, me récompensera pour mes œuvres, les œuvres de la foi, et me donnera la vertu de charité qui est nécessaire pour aller au ciel. Cacher le talent dans la terre, c'est enfouir, pour ainsi dire, dans les occupations toutes terrestres dons d'esprit qu'on a reçus. Hein, pour d'autres pères, rappelez-vous ce qu'ils disaient, que c'était un gaspillage, le gaspillage des grâces de Dieu. Qu'y a-t-il de plus terrible que de gaspiller les grâces que le bon Dieu a préparées pour nous? Donc à cacher le talent dans la terre, c'est se cantonner aux choses terrestres et ne plus s'occuper des choses célestes. C'est terrible. Des gens qui vivent dans le matériel à longueur de journée, qui ne pensent qu'à une seule chose, le dernier... le dernier programme de d'ordinateur qui vient de sortir, le dernier jouet vidéo qui vient de sortir, et puis qui oublient les choses importantes, qui s'enfouissent dans les occupations toutes terrestres, qui enfouissent dans les occupations toutes terrestres le don de l'esprit qu'il a reçu. Enfuir le talent dans la terre, d'autres explications des pères, c'est cacher la gloire de la prédication de l'évangile sous les attaques honteuses d'une passion charnelle. On présente aussi celui qui est accaparé par les tentations d'impureté et puis qui ne cherche pas à s'en tirer. Il cherche à s'en tirer tout seul, alors il n'y arrive pas. Ce compte qu'il faut rendre, c'est l'examen qui précède le jugement. Il faut donc s'humilier profondément des dons que l'on a reçus, en considérant que l'on devra être jugé d'autant plus sévèrement sur l'usage qu'on en aura fait. Donc ce bête qui part en voyage et qui revient représente le Créateur du ciel et de la terre qui va venir pour nous demander de rendre compte de notre gestion. Et il va venir sans prévenir. C'est donc le jugement, ça représente le jugement général. Dieu arrive, demande compte du nombre de demande d'abord combien de talents j'ai reçu, et deuxièmement me demande qu'est-ce que j'ai fait des talents, et ensuite il pèse sur la balance pour voir si les talents ont donné un fruit suffisamment lourd. Mané, Tessel, Phares, rappelez-vous. Quand le roi des Assyriens, Nabucodonosor, qui mangeait et buvait avec ses concubines et qui profanait les vases sacrés qui avaient été pris par son père dans le temple de Jérusalem, lors de la destruction du temple de Jérusalem, et il buvait, il faisait la bonne chair avec toutes ces prostituées qui étaient autour de lui, et toutes ces femmes qui étaient autour de lui, et tous ces grands soldats de son royaume, tout fiers de lui, tout fiers de ce qu'il avait fait. Et voilà qu'une main mystérieuse vient tracer des signes sur le mur. Mané, Tessel, Phares. Personne ne peut lire, parce que c'est de l'hébreu. Alors les mages lui disent, mais il y a un homme là parmi ceux qui viennent de la déportation de Babylone, de la déportation de Jérusalem, il s'appelle Daniel. Lui, il lit ces langages-là. Demandez-lui, il va vous expliquer ce que ça veut dire. Alors Daniel est appelé. Et le roi lui dit, si tu peux me lire ce qui est sur le mur là, je te couvre d'or, je n'ai pas besoin de ton or, tu peux le garder ton or. Mais je te dis ce que ça veut dire. Mané, Tessel, Phares. Tu as été pesé. Tu as été mesuré. Tu as été compté et tu as été trouvé manquant. Mon âme a été mise sur la balance divine. Et bon Dieu qui sait tout, sait le nombre de grâces que j'ai reçues dans cette âme particulière qui est la mienne. Et le bon Dieu a vu qu'avec le nombre de grâces que j'ai reçues, je devrais donner un minimum de bien, d'œuvres de charité. Et ces œuvres de charité ne sont pas là. Donc mon âme est trouvée manquante, mon âme est trop légère. Rappelez-vous, c'est sous les frontons de nos capitales, de nos belles églises, le jugement dernier, et que l'ange ou le bon Dieu lui-même qui venait juger les âmes, le bon Dieu qui venait juger les âmes, et puis l'âme était mise sur le plateau de la balance, puis on regardait si le plateau était suffisamment lourd ou non. Et puis on voyait sur ces beaux bas-reliefs souvent la Sainte Vierge qui pleurait parce qu'elle voyait les âmes se perdre. Et au contraire, la Sainte Vierge et l'ange gardien, tout heureux d'accueillir son protégé qui finalement a bien passé l'examen final. Donc celui qui a reçu deux talents, d'après les pères, encore une fois je vous l'ai dit, les pères ne disent pas tous la même chose là-dessus. Donc vous avez ça, page 40 sur le polycopier. Ce serviteur à qui son maître a confié le talent, c'est le peuple des gentils, c'est nous, les gentils. Nous avons été justifiés par la foi, par la confession du Père et du Fils. Et nous témoignons hautement que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme par l'union de l'esprit et de la chair. Mais d'autres, au contraire, vont cacher le talent qu'ils ont reçu. Parce qu'ils sont faits complètement dévorés par toutes les occupations purement terrestres. Ils ne sont pas préoccupés du don qu'ils ont reçu. Et ils ont enfui ce talent dans la terre pour cacher la gloire de la prédication de l'évangile sous les honteuses attaques d'une passion charnelle. Et ce compte qu'il faut rendre, c'est l'examen
qui précède le jugement. Il faut donc s'humilier profondément des dons que l'on a reçus, en considérant que l'on devra être jugé d'autant plus sévèrement sur l'usage qu'on en aura fait. Sur le nombre qu'on a reçu, celui qui a reçu 5 talents sera jugé plus sévèrement que celui qui n'en a reçu qu'un. Celui qui n'en a reçu qu'un va recevoir avec ce talent unique qu'il a reçu toutes les grâces dont il a besoin pour pouvoir aller au ciel. Celui qui a reçu 5 talents aura besoin de plus de grâce, mais le bon Dieu est prêt à lui donner davantage de grâce pour que lui aussi puisse aller au ciel. Et s'il a été fidèle, il aura au ciel un poste plus glorieux encore que celui qu'a eu celui qui n'a été fidèle que dans l'usage d'un seul talent. Ce compte qu'il faut rendre, c'est l'examen qui précède le jugement. Il faut donc s'humilier profondément des dons que l'on a reçus, en considérant que l'on devra être jugé d'autant plus sévèrement sur l'usage qu'on en aura fait. Alors le texte parle de longtemps après. Longtemps après, c'est au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Qu'est-ce que veut dire ce longtemps après? Longtemps après, parce qu'il doit s'écouler un long espace de temps entre l'ascension du Sauveur et son second avènement à la fin des temps. Dieu tient le même langage à tous les deux pour nous apprendre que celui qui a reçu de moins grande faculté, mais qui leur a fait produire tout ce qu'elles étaient en droit d'en attendre, aura aux yeux de Dieu le même mérite que celui qui est doué de difficultés supérieures. Celui qui a reçu 5 talents et qui a été fidèle, ira au ciel. Celui qui a reçu un seul talent et qui a été très fidèle, ira aussi au paradis, sera peut-être au paradis au-dessus que celui qui avait reçu 5 talents, mais qui était peut-être un peu moins fidèle dans l'usage qu'il a fait de ses talents. Dieu n'existe qu'une chose, c'est que l'homme consacre à sa gloire tout ce qu'il a reçu de lui, que ce soit 5 talents, 2 talents ou un seul talent. Le serviteur figure aussi le peuple juif qui reste attaché à la loi et qui donnant comme prétexte de son éloignement de la liberté évangélique la crainte que lui inspire la loi ancienne dit à Dieu, je vous ai craint et ajoute, voici ce qui est à vous. Donc le dernier qui n'a reçu qu'un seul talent, Seigneur répond, Seigneur je sais que vous êtes un homme dur qui moissonnait, vous n'avez pas semé, qui ramassait ce que vous n'avez pas répondu, c'est pourquoi j'ai eu peur, j'ai caché votre talent dans la terre, le voici, vous avez ce qui est à vous. Eh bien, ce talent représente, celui qui a un seul talent représente le peuple juif. Et notre Seigneur Jésus-Christ va leur dire, serviteur mauvais et paresseux, vous saviez que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai pas répandu, il vous fallait donc remettre mon argent en banquier, à mon retour j'aurai retiré avec usure ce qui est à moi. Enlevez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a 10 talents. Et celui à qui va recevoir le talent qui est pris aux juifs, eh bien c'est le peuple catholique. J'ai déjà expliqué ça. Bien des fois, c'est comme ça qu'expliquent les pères. C'est ce même peuple qui s'arrête exclusivement au commandement du Seigneur, bien qu'il sût que Dieu devait moissonner des fruits de justice là où la loi n'avait pas été semée et recueillir parmi les gentils des enfants qui ne provenaient pas de la race, dit Abraham. Les gentils n'étaient pas du peuple élu au début, mais vont devenir le nouveau peuple élu. Comme les 5 talents figurent la science des choses extérieures, c'est en bas de la page 40. Comme les 5 talents figurent la science des choses extérieures, les 2 talents, l'intelligence et l'action, celui à qui son maître a confié 2 talents a plus reçu que celui à qui il en a confié 5. Car celui qui est dans les 5 talents a reçu le don d'administrer les choses extérieures et de cependant privé de l'intelligence des choses éternelles. Celui qui a reçu 2 talents est finalement peut-être plus riche que celui qui a reçu 5 talents. Et celui qui n'a reçu qu'un seul talent peut avoir toutes les richesses nécessaires pour aller au ciel. Donc ne pleurons pas, mes bien chers frères, si nous voyons que d'autres autour de nous ont reçu plus de talents que nous avons reçu. Le bon Dieu sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il peut nous donner. Il donne à chacun d'entre nous les grâces dont nous avons besoin. Relisez, mes bien chers frères. Je conseille beaucoup de faire ça, relisez ces textes magnifiques. Il ne faut pas que ces cours soient simplement des cours qui passent, si vous voulez. Il faut au contraire que ces cours puissent être vraiment utilisés, réutilisés. Donc pour ça, il faut savoir les relire. Alors nous allons arrêter là. Nous commencerons la prochaine fois, si Dieu veut, à la page 41, Je vous rappelle, pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu là-dessus, qu'il y a encore des places pour les deux dernières retraites de l'année, celle de la dernière semaine de septembre. Donc, du 23 au 28 septembre, et j'ai encore des places pour la retraite d'octobre, du 14 au 19 octobre. Donc, nous allons terminer maintenant par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.